Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Un auteur, une voix, avec écrivainbreton.org, nous accueillons Fabi Lemg. Fabi Lemg, qui êtes-vous ?
Donc bonjour Michel, donc je suis Fabi Lemg, c'est mon nom d'auteur. Mon nom réel, c'est Fabienne Lemaoult-Goutard, et j'ai choisi les initiales de mon nom de famille, qui est un petit peu long, pour donc m'appeler Lemg et Fabi, parce que mon nom c'est Fabienne, et voilà, parce que Fabi, j'ai aimé les sonorités de Fabi.
C'est un choix, c'est un bon choix, en fait, c'est court, et puis vous gardez votre nom de famille. Votre parcours professionnel, Fabi Lemg ?
Alors, mon parcours professionnel, j'ai fait des études de langue à Rennes 2, dans les années 80, anglais, espagnol, LEA, et je me suis spécialisée en anglais. J'ai passé le CAPES, j'ai d'abord travaillé dans l'entreprise, dans l'import-export pendant 4 ans, et je me suis ensuite tournée vers l'enseignement. J'ai passé le CAPES d'anglais et je suis devenue professeure d'anglais depuis 1991. D'abord en quelques années en lycée professionnel, 4 ans, j'avais d'abord passé le PLP2 et ensuite donc le CAPES et je me suis retrouvée en collège pendant 8 ans et depuis 2004, j'exerce dans un lycée à Rennes.
Le PLP2, c'est le concours pour l'enseignement dans les lycées professionnels ?
Voilà, donc ça veut dire professeur de lycée professionnel deuxième grade, c'est au même niveau que le CAPES, mais pour enseigner deux matières, donc moi c'était l'anglais et les lettres, le français, en lycée professionnel. Donc j'ai eu une expérience pendant 4 ans de professeur de lettres et d'anglais.
Et à un moment donné, vous avez fait le choix de l'écriture, qui n'est pas unique. Vous avez continué, bien sûr, votre carrière d'enseignante.
Oui, tout à fait.
Et le choix, à ce moment-là, comment c'est venu ?
Alors, comment c'est venu ? J'écris depuis 5 ans seulement. Le choix, il est arrivé, je pense qu'il y a eu sans doute des événements dans ma vie qui ont fait que j'ai eu envie d'écrire à un moment donné. Il y a eu la mort de ma grand-mère, qui est morte à 102 ans, donc en 2014, et j'ai commencé à écrire en 2016. Je pense qu'il y a un lien, et j'ai eu envie de laisser une trace de cette vie, de sa vie et de la vie des autres personnes que j'ai connues, donc au centre Bretagne, voilà, pendant mon enfance.
Une richesse dans vos ouvrages, c'est l'émotion, ce sont les sentiments, et on retrouve bien cette époque à travers de vos ouvrages. Et quand vous parliez de votre grand-mère, elle habitait au centre Bretagne.
Voilà, alors en fait, mes deux grands-mères habitaient au centre Bretagne. Mes grands-parents maternels habitaient à Kergomar et mes grands-parents paternels à Kergir. Et le livre qui va sortir dans quelques semaines s'appelle « Eus Kergomar da Kergir au Tremendre Armor » et il relate en fait l'histoire de mon histoire dans les années 70, plutôt entre Kergomar et Kergir, et l'histoire aussi de ma mère dans les années 40 et 50 à Kergomar. Kergomar et Kergir sont deux villages du centre Bretagne qui sont situés à côté de Rostrona.
Ce sont des hameaux en réalité.
Des hameaux, exactement.
Et on a deux Kergomar à Kergir. On traduit aujourd'hui, finalement, dans notre esprit de 2021, c'est finalement de Paris à Chicago, presque. Alors,
oui.
Est-ce que c'est loin l'un de l'autre ?
Alors, justement, dans mon nouveau livre, je commence par parler de Kergomar, qui est à 10 kilomètres seulement de Kergir. Mais alors, ce sont deux mondes complètement, on peut presque dire, opposés, tant en fait la vie des habitants de Kergomar, donc de mes grands-parents maternels, était tournée vers la religion. C'est un monde, on est dans un monde de croyances, de superstitions, les personnages de la première partie de Euskergomar, d'Akergir, sont presque même fétichistes. Hein. Dans un poème comme dans les pétales de Guillaudet, par exemple, on voit la mère ramasser des pétales de fleurs le jour du pardon sur le chemin de la procession. Et sa fille fait la même chose. Donc j'ai essayé de décrire un comportement très très empreint de religion. Parce que ma grand-mère maternelle était quelqu'un de très très pieux. Elle égrenait son chapelet, elle croyait aux miracles. Hein, c'est ce que j'indique dans ce poème-là, donc qui est un nouveau poème. Donc le monde de Kergir est, lui, à l'inverse, un monde beaucoup plus où la religion est absente. Et pourtant, on n'est qu'à 10 kilomètres. Hein. C'est un monde qui est donc les poèmes de Kergir se situent plus les anecdotes se situent plus dans les années 70 et 80 et on est dans un monde de la liberté où les enfants sont presque rois, ils dirigent le tracteur, ils occupent des rôles presque d'adultes finalement à Kergir et les occupants de Kergir ne sont pas pratiquants. C'est pas qu'ils ne sont pas croyants, en tout cas, ils ne sont pas pratiquants. Et ma grand-mère paternelle, Kergir est la ferme où habitaient mes grands-parents paternels, à la différence de mes grands-parents paternels n'étaient pas pratiquants et ne voulaient pas, je me rappelle ma grand-mère, dire qu'elle ne voulait pas embêter les enfants avec la religion. On ne devait pas les embêter
avec les règles. C'est ça. Et dans ce monde où il y avait des règles, effectivement, aller à la messe, en fait, les gens allaient au catéchisme, aller à la messe, les enfants, sans se poser de questions, puisque tout le monde y allait. Comme le curé passait dans toutes les maisons, il faisait une tournée. Et les parents, vous avez raison de dire que les parents disaient, les uns étaient croyants, comme ceux de Kergomar. Et les autres, finalement, ils disent, je fais comme tout le monde, la réalité, quoi. Mais je ne vais pas embêter les enfants avec ça. Et là, vous avez raison. Et quand vos parents se sont rencontrés, ça a dû être un peu bizarre autour de la table, en face à face.
En fait, mes parents se sont rencontrés au début des années 60. Hein, lors d'un bal, ils avaient dans les 20 ans. Hein, ma mère s'est mariée, elle avait 20 ans. Ils ne voulaient ni l'un ni l'autre rester habiter à Rostrena. Mon père est parti au Mans, il a passé un concours de rédacteur pour travailler au Mutuel du Mans. Et ma mère n'a pas voulu non plus rester à la ferme. Elle était fille unique. Mon père, ils étaient deux enfants, mais il n'a pas voulu non plus rester à la ferme. Et ils se sont rencontrés lors d'un bal. Là, ça a été, je pense, un coup de foudre. Et mais ils étaient vraiment de milieux et de croyances vraiment différentes. On peut dire qu'à Kergomar, il y a un poème aussi dans Dame Verte Liberty, mon recueil de poèmes différents précédents, qui parle des superstitions. Il s'appelle un poème qui s'appelle Les Corbeaux. On peut dire que dans Les Corbeaux, qui m'a été inspiré par Kergomar, il y a presque une ambiance, en tout cas, on sent le poids de la religion qui est très très important. On a presque un sentiment de menace qui pèse sur les habitants de Kergomar. Kergomar n'est pas cité dans le poème, mais c'est une croyance que ma mère m'a racontée, quoi.
En fait, vous amène à vous danser, mademoiselle, oui. Et la suivante, voilà, une belle histoire. Ne pas rester à la ferme, ça n'a pas été trop dur pour les parents de votre maman qui allait quitter la ferme alors qu'elle était fille unique?
Si, ça a dû être très très difficile, je pense. Ma mère était une enfant choyée, même si elle a été en pension pendant 8 ans à Gouarec et qu'elle en a un peu souffert. Hein. Ouais. Je pense que ça a dû être quelque chose de difficile pour mes grands-parents maternels. Ouais. Pour mes grands-parents paternels, le fait que mon père n'ait pas voulu rester tenir la ferme, je pense que c'était un peu dans l'ordre des choses parce que ma grand-mère a toujours insisté sur l'importance des études et elle a permis à ses enfants d'aller jusqu'au bac. À l'époque, dans les années 60, c'était pas non plus très courant dans les familles agricultrices d'aller jusqu'au bac. Elle a insisté pour qu'ils fassent des études tous les deux.
Alors. Une description plus précise de cette zone entre Kergomar et Kergir, 10 kilomètres, quand on est à pied ou en vélo, ça fait un peu quand même. Et on avait le temps de voir des paysages. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous décrire un peu le paysage qu'il y a entre ces deux hameaux, parce que vous connaissez bien le coin.
Oui, alors toute ma famille maternelle est de Gouarec. Alors le vallon aux arcades. J'aime beaucoup le nom de Gouarec en breton. C'est un très joli endroit. Il y a des endroits qui sont magnifiques, hein, comme Toulgoulic, par exemple. Moi, je me rappelle avoir été toute petite voir le... Et on y allait souvent l'été pour ressentir la fraîcheur des roches, de la rivière. Et on a le chaos, un chaos granitique. Donc, on est dans un paysage qui est assez, on peut dire, varié, puisqu'on a à la fois Toulgoulic, on a Gouarec avec le canal.
Le village de Saint-Antoine.
Magnifique
sur ses rochers.
Oui. On a donc le bois. Lorsque j'allais toute petite à Kergomar, le Kergomar est situé tout près d'un bois. Et c'était très impressionnant. Très impressionnant. Je me rappelle, étant petite, aller longer la voie de chemin de fer tout près du bois. Un enfant avec les grands arbres, justement, donc la photo de la couverture du futur livre a été prise à Kergomar. On voit ces très longs arbres qui sont hyper impressionnants quand on est petit.
Et tout ça en écoutant teinter le carillon du Guillaudet.
Ah oui, alors carillon du Guillaudet, oui.
C'est magnifique, avec un pardon qui a lieu le premier dimanche du mois de mai, et avec une procession qui existe toujours, et bien sûr un tantade. Après, ça réchauffe, mais en plus, c'est un peu un culte celtique qui est resté. Le feu, en fait, ça rappelle un peu le feu sacré. Et cette entade, pour nos amis auditeurs, cette entade rappelle bien le pardon en Bretagne, la notion de pardon. Il y en a beaucoup autour de nos saints bretons, autour de nos chapelles aussi. Et ces pardons vivent toujours, plus avec les coiffes, bien sûr, c'est très moderne actuellement, mais il n'empêche qu'on a le fond de ce qu'était un pardon, avec les vêpres suivies de la procession, les cantiques bretons, souvent construits sur mesure par des prêtres locaux, et puis la fontaine, bien sûr, la fontaine sacrée, et le tantade. Alors, Fabilaine, vous allez sortir ce livre-là prochainement, je crois, aux éditions
Yellow Concept.
Yellow Concept. Et vous avez écrit donc d'autres ouvrages avant.
Oui, Alors donc dans Euskergomar, celui qui va sortir, je voulais dire aussi qu'il y a une troisième partie qui est en passant par la mer, parce que en fait dans tout le livre on suit un personnage, une petite fille, ça pourrait être Fabie, hein, parce que c'est autobiographique, qui va passer ses dimanches à Kergomar et à Kerguir ensuite. Mais elle habite à Saint-Brieuc, d'où la partie sur la mer, la dernière partie.
Bien lu le manuscrit, parce que j'ai eu le droit de le lire en avant-première. J'ai vu que des poèmes relataient cette île magnifique qu'on appelle l'île aux fleurs.
Oui, l'île aux fleurs. Alors l'île aux fleurs, c'est Bréa. Bréa, Briade. Alors Bréa, une île magnifique. Hein. J'ai la chance d'aller en vacances l'été... en face de la pointe de l'Arquest, hein, et sur la presqu'île de la Néros, et chaque été, je vais passer une journée à Bréa. C'est un émerveillement à chaque fois de voir cet archipel avec toutes ces roches de granit, et puis elle est magnifique, quoi. C'est magnifique.
L'île aux fleurs, Kergir et Kergomar aussi, c'est les fleurs, c'est un paysage magnifique, quand même, de rochers et de forêts. Vous écrivez en fait de la poésie, et cette poésie, outre qu'elle contient beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, elle a aussi, rattachée à la nature. On retrouve en vous, alors je sais pas comment on dit, la poétesse ou la poète, j'ai jamais su, disons que...
Je ne sais pas bien moi-même non plus.
C'est un vaste problème, résolu par le breton justement. Parce que le breton ne fait pas de différence, il dit arbars, c'est-à-dire le barde.
Le barde, voilà.
Qui est à la fois poète, masculin et féminin, mais il est poète. Allons.
Alors, dans mes poèmes, ce que j'essaye de faire, c'est accorder autant d'importance aux objets, aux choses, qu'aux activités humaines et aux personnages, ce qui permet de créer des tableaux, des espèces de petits tableaux un peu classiques et un peu figés et avec un espèce de chemin. Souvent le terme de chemin revient, j'ai remarqué, en tant que figure, et pour moi, les objets sont des chemins vers le souvenir. Dans Kergomar, de Kergomar à Kergir, j'ai retracé, je me suis rappelée de souvenirs qui datent de l'enfance et des souvenirs aussi de l'enfance de ma mère. Les objets ont une importance, les sentiments sont souvent, les émotions sont souvent créées par les objets. Ce ne sont pas forcément les personnes qui créent les émotions.
Le souvenir, je pense que le souvenir réveille aussi des sentiments du passé.
Oui, tout à fait. Le souvenir et ce qui m'intéresse aussi, c'est de me demander comment on se souvient. Et les objets permettent, pour moi, de trouver le chemin vers le souvenir, vers ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que j'aime bien les œuvres, par exemple, de Georges Perec et le travail aussi de Francis Ponge sur les objets. Ici, les objets ne sont pas classifiés comme chez Georges Perec. Ils arrivent comme ça et ils ont une place aussi importante que le personnage en lui-même. Personnage humain, enfin voilà.
C'est émouvant de voir en fait certaines plantes aussi. Je pense là à l'instant à la pervenche. La pervenche, elle revient chaque année, elle fleurit et elle est dans un petit parterre qu'il y avait parfois devant les maisons. Et on voit ressortir chaque année les pervenches. On voit les pivoines anciennes et de temps en temps aussi les jonquilles qui peuvent traverser la couche en fait de terre. Mais moi j'imagine toujours ces plantes traversant le temps en même temps. Il y a un réveil formidable. La maison est abandonnée depuis 20 ans, mais vous avez ces plantes qui reviennent et qui nous font dire ici ont habité des gens. Et ça c'est quelque chose toujours qui m'émeut.
Tout à fait. Ouais. La nature, hein, quand on revient à cette notion de nature, est très très importante aussi. Je pense écrire une poésie qui peut être par certains côtés assez naturaliste, en fait. Voilà.
Les deux ou trois ouvrages peut-être dont vous pouvez nous parler.
Donc j'ai écrit aussi Dame verte Liberty, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, qui est un recueil de poèmes que j'ai écrit après la maison de Kergir, ainsi que donc Camille dans les jardins de Sheila, qui est un premier roman. Ces deux livres, donc l'un est un recueil de poésie et l'autre un roman, ont un point commun, c'est le voyage. Hein, le voyage et le rapprochement de deux cultures. Dans Dame verte Liberty, nous avons le rapprochement de la culture bretonne, entre la culture bretonne et la culture américaine, avec des références à des auteurs américains que j'aime beaucoup, comme Emily Dickinson ou comme Edgar Allan Poe. J'ai deux poèmes qui leur rendent hommage. Et puis dans Camille dans les jardins de Sheila, j'ai voulu faire un rapprochement entre deux cultures, la culture bretonne et la culture marocaine, à travers une histoire d'amour et une narratrice. Donc c'est écrit à la première personne, la narratrice a 19 ans, elle est étudiante à Rennes dans les années 80, et elle tombe amoureuse d'un étudiant marocain. Lui va visiter la Bretagne et elle va visiter le Maroc. Voilà. On a un rapprochement encore de deux cultures, j'aime l'idée de rapprocher les cultures.
Et là, on parle d'une distance plus grande, quoi. C'est plus Kergomar, Kergir, c'est
on traverse la Méditerranée,
Bretagne, Maroc,
et l'Atlantique.
Et dans vos ouvrages, d'ailleurs, la culture bretonne revient. Elle est toujours présente là en tant que culture bretonne. Mais il y a aussi le breton, la langue.
La langue bretonne. Alors, je voulais remercier chaleureusement Yann, qui a traduit les 53, enfin, la plupart de la cinquantaine de poèmes qu'il y a dans Eus Kergomar da Kergir. Je pense qu'il a fait un travail formidable. J'apprends le breton depuis 5 ans, je ne suis pas à même de traduire mes textes moi-même, mais j'arrive à déchiffrer. Maintenant, je commence à comprendre la structure un peu de la langue, et je pense qu'il a fait un travail de grande qualité. En tout cas, j'espère que ce livre plaira aux lecteurs en Bretagne et ailleurs.
La poésie en breton, c'est un art difficile, y compris pour les traducteurs. Déjà, traduire une langue, c'est compliqué. Traduire le breton, c'est pas simple non plus. Il faut vraiment être dans l'ambiance, à la fois, oui, du texte, pouvoir dire les idées selon la manière dont la langue l'exprime. C'est pas du mot à mot, loin de là. Donc il faut être vraiment au cœur. Et quand on traduit une poésie, c'est encore plus délicat, parce qu'il faut que ça reste de la poésie, et le langage poétique en breton est un langage pas facile, et il faut s'y connaître. Alors bravo à lui pour ce travail.
Oui, d'autant plus que on s'est téléphoné plusieurs fois, et il a vraiment essayé de bien connaître le contexte, le contexte aussi de création, de les idées, les images, pour pouvoir traduire. Il a vraiment fait, je pense que il a fait son travail d'une manière vraiment approfondie.
Des poèmes compréhensibles en breton comme ils sont compréhensibles en français. Je veux dire par là que une traduction n'est pas seulement une traduction littéraire, une traduction mot à mot, c'est une traduction destinée à un lecteur bretonnant, qui effectivement doit être capable de comprendre parfaitement ce qu'il exprime. Et alors, vous étiez professeur d'anglais, donc l'anglais est aussi présent dans...
Oui, alors donc dans La Maison de Kerguir, mon premier livre, paru en 2019 aux éditions Yellow Concept aussi, est un livre bilingue. Tous les poèmes que j'ai composés, je les ai traduits en anglais, et ils ont été relus en plus par des anglophones.
C'est important aussi que
une américaine, une assistante américaine et une assistante anglaise. Et de même pour Dame Vert Liberty. Dame Vert Liberty comprend 36 poèmes, et donc qui sont en fait répartis en 6 thèmes: amour, éphémérité, nature, mythe, liberté et frisson. Et tous ces poèmes, je les ai traduits en anglais.
C'est pas trop dur.
Ça m'a plu beaucoup de traduire en anglais.
C'est pas trop difficile de mettre d'accord une traductrice américaine et une traductrice anglaise?
Ah non, elles n'ont pas travaillé en même temps sur les mêmes poèmes, hein. Moi j'ai traduit, elles ont relu, donc vu s'il y avait des fautes, parce qu'on ne maîtrise complètement une langue, je veux dire, c'est très difficile, hein, même pour eux. Par contre, pour les choix, quelquefois, ça m'est arrivé de choisir plutôt un terme américain. Et là, j'ai ma relectrice anglaise qui m'a dit mais en anglais, on dirait plutôt ça. Ouais. Donc, alors il a fallu que je choisisse soit le terme américain que j'avais pris ou le terme anglais. Et quelquefois, c'est aussi la sonorité qui me permet d'effectuer le choix. En fait.
Ça me fait sourire parce que là, c'est l'américain et l'anglais, c'est un peu les différences qu'il y a entre le Trigorroy et le Léonard, par exemple. Ou en breton, à distance plus proche, bien sûr, mais c'est un peu ces nuances qu'on retrouve. Et alors, pour l'anglais, bien sûr, il y a aussi l'anglais irlandais, là, vous n'en parliez pas.
Non,
mais
non.
C'est le même genre de nuances qui peut arriver, quoi.
Par contre, j'ai écrit un poème en hommage à un auteur-compositeur irlandais que j'adore, qui s'appelle Rory Gallagher.
Voilà. Donc, on approche la fin de l'émission, déjà, mais c'est un plaisir de vous accueillir, et sans doute aimeriez-vous nous dire quelque chose en plus pour terminer l'émission ?
En plus...
De ce que vous avez dit, il y a peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, et puis pour lequel je n'ai pas posé la question, que vous aimeriez nous dire ou dire aux auditeurs.
Alors moi, je remercie aussi beaucoup ma mère, hein, bien sûr, mais ça va un peu de soi parce qu'elle m'a inspirée.
C'est important de le dire, malgré tout.
Oui, parce que en fait, elle m'a raconté pas mal d'épisodes, hein, sa jeunesse, et je tenais à le faire. Ma mère a 82 ans aujourd'hui, elle se porte très bien. mais je me dis que le temps passe et c'était quelque chose que je voulais faire là dans ces années 2020.
Elle s'appelle comment votre maman? On va lui dire un bonjour.
Alors elle s'appelle Michèle Lemorvan.
Alors bonjour à Michèle Lemorvan qui nous écoute et c'est formidable pour vous Michèle d'avoir une fille comme je vais dire Fabienne là,
comme merci.
Fabienne qui sait porter haut son attachement à vous et au centre Bretagne. J'allais presque dire son amour pour cette belle région où vous avez consacré votre vie. Et c'est bien de penser à ses parents.
C'est un lieu très cher, très cher à mon imaginaire. Très cher.
Oui. Si nous sommes là, et si nous sommes ce que nous sommes, on leur doit énormément. Et j'allais presque dire, on leur doit tout.
On leur doit tout, oui.
Après ce qu'on a fait, ben c'est autre chose, les uns et les autres, hein, vous comme tant d'autres. Alors, vous, si vous voulez rappeler les titres de vos deux ouvrages, l'éditeur, et où on peut se les procurer.
Donc, l'ouvrage qui va paraître s'appelle « Eus Kergomar d'Akergir au Tremendre Armor », qui veut dire en français « De Kergomar à Kergir en passant par la mer ». L'ouvrage précédent, le roman, s'appelle « Camille dans les jardins de Sheila ». Et l'ouvrage qui est paru encore avant, Dame Verte Liberty, le premier, La Maison de Kergir, et ces quatre ouvrages, pour le dernier, sera publié aux éditions Yellow Concept.
On les trouve, bien sûr, dans toutes les bonnes librairies, et oui. Pour vous découvrir. Il me reste à vous remercier.
Merci beaucoup, Michèle, de m'avoir accueilli, et merci à Bretagne 5.
C'était Un auteur, une voix, avec écrivainbreton.org. Nous recevions Fabie Lemg.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.